Bonjour amis auditeurs et auditrices de Radio Galère, merci de nous retrouver et comme le chante, souvenez-vous, Jean Ferrat, l'automne vient d'arriver. Et non, il s'est manifesté d'ailleurs d'une façon particulièrement vive ce matin à Marseille, où la pluie a été abondante, donc on a su qu'on avait changé de saison très officiellement de la part de Météo France. Merci Sidi d'être avec nous et merci Roselyne d'être présente aussi dans ce studio. Alors on va commencer par une interview téléphonique, je vous présente de qui il s'agit et de quoi il s'agit. On va parler de la Bolivie. La Bolivie est à la veille d'une échéance électorale de très grande importance, puisque vous savez, et on s'en est souvent entretenu, que le gouvernement et le président normalement élu par les électeurs boliviens a été chassé de son pouvoir par un coup d'État militaro-fasciste, qu'il s'est installé à la tête de ce pays un régime dit transitoire en application d'un article de la Constitution qui a été copieusement violé depuis, puisque la transition qui était prévue dans la Constitution ne pouvait pas excéder 3 mois. Or, on en est à quasiment 1 an. Et où le parti du président, donc, qui avait gagné plusieurs présidentielles, puisque Morales avait entamé son 3e mandat avant d'être mis à la porte, il n'a pas pu commencer son mandat, il est réfugié en Argentine, on le sait. Et donc la question est de savoir si le parti du président Morales, qui était majoritaire dans les deux chambres du Parlement bolivien, outre il y avait donc le gouvernement, les deux chambres, donc Assemblée nationale et Sénat, pourra revenir au pouvoir. Alors le soutien populaire est massif. Il s'exprime de façon très active et pas violente dans les rues par d'amples manifestations de la population, en particulier la population la moins riche et la plus indienne de la Bolivie. Mais on peut tout craindre puisque le putsch a été organisé par les éléments d'extrême droite et a obtenu un soutien très très fort des États-Unis et des voisins de droite qui entourent ce pauvre pays, c'est-à-dire les voisins de droite au Pérou et des voisins de droite encore plus dur au Chili. Tout ça est un contexte effectivement difficile, sans parler de l'état du Brésil dans lequel le Brésil se trouvait et se trouve encore, bien que, aux dernières annonces, il semble bien que le Parti du Travail de Lula, depuis la libération de Lula et la disculpation de Lula, soit en train de reconstruire un projet politique pour chasser le fou furieux Bolsonaro du pouvoir. Là encore, énorme tâche dans ce pays de plus de 200 millions d'habitants. Mais commençons par la Bolivie, et on va le faire en ayant avec nous en ligne une représentante, disons, de la Bolivie en exil, qui habite Paris, que nous avons eu l'occasion de rencontrer dans la région marseillaise il y a de ça quelque temps, et qui va avec nous faire le point de la situation. Alors, je ne sais pas si tu l'as eu en ligne. Voilà. Bonjour Yannette, est-ce que tu m'entends bien ?
Oui, parfait Bernard, bonjour. Merci beaucoup pour... Allô ?
Oui, j'entends très bien.
D'accord, parfait. Donc, merci beaucoup. J'ai entendu l'introduction. C'est tout à fait, en fait, ce qui est en train de se passer. On est en pleine, normalement, dans une période électorale. La campagne s'est lancée. Normalement, ça devrait être une fête électorale où tous les partis, les diverses opinions politiques devraient librement faire des campagnes, mais là, en ce moment, en fait, on a des sondages qui montrent que les partis du MAS peuvent gagner dès le premier tour.
Ouais.
Tel que, d'ailleurs, c'était le résultat en octobre 2019.
L'année dernière, voilà.
Voilà. Et donc, face à ces dangers que voit l'extrême droite, un danger pour eux, parce que qu'est-ce que ça signifie que le MAS gagne, que les MAS reviennent au pouvoir, ça signifie Un, ils vont devoir répondre pour le massacre qu'ils ont fait à Sencata et Sacaba, plus de 36 personnes décédées, il y a eu plus de 800 personnes arrêtées, donc il y a, en plus de ça, ils doivent répondre pour tous les faits de corruption dans les 10 mois, là maintenant, qu'ils sont au gouvernement. Et entre parenthèses, j'ai dit, un gouvernement de transition selon la loi bolivienne, il ne devait pas dépasser les 3 mois, 90 jours.
Exactement.
Or, on est au 10e mois, donc ils se sont appuyés sur différentes manœuvres politiques, aussi des pressions pour pouvoir se proroger. Mm-hmm. Et on se retrouve aujourd'hui dans des élections malheureusement, grâce à ces erreurs des mauvaises administrations de la pandémie, l'effet des corruptions et toutes les violences qui s'exercent pour pour qu'il n'y ait pas de liberté d'expression, donc de la presse comme aussi de la population bolivienne. Donc on voit que les gens comparent en fait aussi entre ceux qui avaient connu Cédric, il y avait celles qui se sont sorties dans la rue pour manifester contre Morales, c'est une jeunesse que Cédric peut-être n'avait connu que les gouvernements du MAS durant 13 ans. Mm-hmm. Et ne pouvait pas comparer avec d'autres gouvernements. Et donc là maintenant, ils peuvent comparer c'est quoi un gouvernement ultra-libéral. Mm-hmm. Où maintenant, ils peuvent comparer qu'il n'y a pas de liberté d'expression ni d'opinion. Et donc, les sondages maintenant reflètent un fort soutien. Même, je pense qu'on risque de faire plus de votes pour le MAS que ce qu'ils avaient obtenu en 2019.
D'accord. C'est-à-dire peut-être même arriver à 50% tout de suite.
Oui, mais déjà, selon les sondages, on a déjà ce qu'il faut pour que les MAS gagnent dès les premiers tours. Ils ont peur. Et donc, on les voit là. La présidente Jeanine Áñez qui s'est autoproclamée, donc a bien décliné sa candidature parce qu'en fait elle s'est portée candidate et elle se retire de la course et elle dit je me retire de la course pour faire barrage au MAS.
Donc c'est clair. Ça veut dire qu'il faut que tu nous expliques que la droite, disons, était divisée face au MAS jusqu'à ce moment.
Oui, jusqu'à maintenant, en fait, il y en a encore 6 autres candidats en
course.
D'accord,
elle l'est encore.
Elle est toujours divisée, ils ne sont pas d'accord entre eux. Oui. Mais on a l'extrême droite, Jeanine Áñez représente l'extrême droite avec Luis Fernando Camacho, chacun a leur parti politique. On a d'autres partis, mais ce sont toujours de droite, mais qui n'ont pas non plus de projet, ni un projet clair sur une politique économique qui inclut tous les Boliviens, tous les secteurs qui composent la Bolivie. Et donc face à cette peur, on voit par exemple les milices paramilices qui soutiennent Luis Fernando Camacho, parce que là, comme Jeanine Áñez se retire de la course, donc ces paramilices se sont tournés à soutenir Camacho. Oui. Et comme là, les derniers sondages, ça confirme encore la montée du MAS, avec un soutien en faveur du MAS. Donc on voit maintenant les paramilices réactiver de nouveau et la terrorisation a commencé. Donc, alors qu'on devrait être dans une fête électorale, on est en train de vivre une terrorisation. En tout cas, les gens militants du MAS sur place, le 19 septembre, ils ont été roués à coups de pierre, à coups de bâton à Cochabamba, attaqué par la résistance juvénile Cochala. Mm-hmm. Hier, à Santa Cruz, près de mon lieu de résidence de Bolivie, là où j'habitais, ils ont été embusqués, attaqués à coups de pierre. À Santa Cruz, il y a la paramilice, la Union juvénile cruceñista, qui était d'ailleurs déjà citée en 2004, 2006, jusqu'en 2000. Ils ont agi violemment contre Morales. C'était eux d'ailleurs qui avaient menacé des morts. Donc alors qu'à l'époque, on avait Evo Morales qui était élu démocratiquement avec plus de 52% des votes, en précision élu constitutionnellement. Il n'avait pas le droit de mettre un pied dans ma ville à Santa Cruz. Il était menacé des morts. C'était justement ce même groupe, la Union juvénile cruceñista. Qui était, disons, derrière ces menaces et tous ces attaques qu'on voit, non ? Ce sont des paramilitaires et ce sont des fascistes. Et donc, c'est eux qui se sont réactivés maintenant. Ils sont attaqués hier à une attaque de militants du MAS à Santa Cruz. Et hier, en parallèle aussi, dans une autre ville, à El Alto, à La Paz, un groupe de jeunes qui étaient réunis en assemblée, c'était des militants aussi du MAS, ont été gazifiés, attaqués avec des gaz. Donc ils étaient obligés d'être dispersés. Alors que c'était une assemblée, une réunion où c'était rassemblé, comme là, c'est la période, en fait, c'est la période de faire des rassemblements
Bien sûr.
pour inviter leurs candidats. Voilà.
Pour faire leur campagne dans des conditions démocratiques normales. Voilà ce qui est.
Exact.
C'est ça. Est-ce que, alors là, c'est les fascistes et les ministres, est-ce qu'il y a un risque de golpe militaire ou pas derrière ça? Là, on n'aurait que les signes avant-coureurs.
Ouais. Bah, c'est tout à fait une des craintes. Je pense qu'un dernier des quatre qu'ils peuvent tout à fait utiliser, disons, dans leur stratégie à eux,
Oui.
dans leur peur, parce que là, Jeanine et Agnès sont tentatives de faire barrage masse, décline sa candidature.
Oui.
Donc là, encore pour éviter que, disons, que bah, les militants de masse fassent la propagande, touchent les gens et, comment dire, ils passent un temps de leurs propositions, donc on empêche qu'eux, ils fassent campagne.
Voilà.
Donc si les masses continuent, comment dire, à maintenir ce soutien dans les sondages, ça court déjà dans le bruit, parmi les gens de l'extrême droite, ils l'évoquent, hein, on l'entend dans
Eh
leur
oui.
intervention à la radio, ils disent qu'il faut fermer l'Assemblée nationale, notre Assemblée plurinationale de Bolivie.
Voilà.
Donc ça, cette carte-là, ils ne l'ont pas écartée. Donc on a un fort risque que s'ils se voient menacés que les masses reviennent, parce que ça va signifier, bah, pour nous, c'est de la justice qu'on va faire, parce qu'il faut qu'il y ait des responsables de ces massacres qui sont faits. Il faut qu'ils répondent aussi pour tous les faits de corruption. Il faut qu'ils répondent pour tous qui sont en train de des délits qu'ils sont en train de commettre en train de démanteler notre pays, des entreprises qui ont été arbitrairement mises à l'arrêt, des entreprises pourtant d'État, des entreprises stratégiques comme de l'électricité
Oui,
ou
ou deux.
d'autres industries qu'on a créées sous le gouvernement de Morales.
Ouais, ils se sont appropriés les entreprises, les grosses entreprises nationalisées, c'est ça.
Oui, là, il y a par exemple, il y a 2 jours, les procureurs de la République, alors qu'ils étaient désignés par Jeanine Agnès et qu'elle s'est proclamée, elle a renouvelé pas mal de postes clés, dont les procureurs de la République. Et il était limogé parce qu'il avait ouvert une enquête contre le premier ministre Murillo. Pour des faits justement de corruption, des surcoûts dans l'achat du matériel militaire. Justement, d'ailleurs, on a l'interview de Murillo où il dit on a des armes, qu'on évoquait les manifestations du mois début août pour que justement, enfin, on ait cette date des élections. Les gens ont dû manifester. Donc, et c'est là que Murillo, il a lancé une menace en disant bah, ils peuvent protester autant qu'ils veulent. Nous, on a du gaz à pourtenir.
Voilà.
On a du gaz lacrymogène. Et donc, oui, la droite est prête à tout en Bolivie
Est
pour pas lâcher les pouvoirs.
prêt à tout, y compris à la violence.
Oui.
Je voulais te parler du dernier fait que vous nous avez signalé, puisque vous êtes organisé dans un courant qui s'appelle le Wipala en exil. Donc, Wipala, c'est le drapeau qui symbolise l'unité de tous les Indiens andins, c'est ça?
Oui.
Et vous êtes regroupés donc à l'extérieur du pays, et vous êtes une équipe donc en France et à Paris en particulier. J'ai appris donc par votre dernier communiqué que l'équipe au pouvoir s'était organisée pour vous empêcher de voter.
Oui. Rapidement sur Wipala,
Oui.
et je vais ensuite répondre à la question
Oui.
de. Un instant. Oui, pas là. Et la question du vote, boycott de vote. Oui. Donc, oui, pas là, en fait, on a repris ce nom parce que à la demi-heure de la démission de Morales, il y a eu un symbole très important pour les Boliviens que nous revendiquons, nous identifions indigènes. Elle a été brûlée. C'est un symbole, en fait, c'est un drapeau multicolore qui représente les différentes couleurs de la cosmovision indigène. des Indes. Et donc, il y a par exemple la pensée politique, il y a la mère terre, donc chaque couleur représente en fait les différents composantes aussi de l'univers.
Oui, oui.
Et donc, ce symbole a accompagné les luttes de résistance face à la colonisation, déjà à l'époque où on avait encore, on était sous la domination espagnole, puis aussi il a accompagné toutes les luttes de revendication, de reconnaissance de citoyenneté pendant la période de républicaine de la Bolivie. Oui. Après, on a obtenu notre indépendance en 1825.
Oui.
Donc, mais les indigènes n'étaient pas reconnus en fait tout à fait comme des citoyens dans les faits.
C'est ça.
La réalité, c'était qu'on devait nier notre langue, nier nos habits pour être considérés des personnes à part entière. Donc, beaucoup de campagnes n'avaient pas le droit. On était empêchés en fait de voter parce qu'ils n'avaient pas les infrastructures qui nous permettaient justement d'exercer notre droit, différents droits. Et donc grâce au gouvernement de Morales en 2009, après qu'on ait reformulé notre constitution nationale, on a inclus ce drapeau qui avait beaucoup d'histoire et donc qui est devenu un symbole national, parce que vous savez par exemple différents symboles, non, la tricolore, voilà, française, la Mariana, donc pour nous il y avait aussi
Il avait pris toute sa place à côté du drapeau officiel.
Ouais. Exact, donc à la démission de Morales, ce drapeau il était retiré de différentes institutions, il était brûlé publiquement par les manifestants. Des policiers, pas tous, mais une grande partie des policiers se sont filmés en train de s'arracher ce symbole de leur uniforme. Ils l'ont découpé, ils se sont moqués de ce symbole. Donc, c'était un signe, non, de leur racisme, de leur...
Voilà. C'est un
négationnisme. Voilà.
C'est un génocide indirect.
Exact. Donc, et les gens sont sortis justement protester contre ça, contre ces femmes qui sont manifestées, contre les symboles, un symbole qui pourtant a beaucoup d'histoire, qui a fait progresser la Bolivie.
Bien sûr.
Nous apportons une loi aussi contre le racisme, mais ça n'a pas été suffisant d'avoir une loi de pénaliser les propos et les violences racistes. On voit aujourd'hui que ça a émergé, ça ressurgit fortement. Et là, ils sont infinis. Ils se permettent une traite de sauvage. Ouais. Et donc, pour répondre à la...
Sur le vote, oui, sur le vote.
Ouais. On dénonce, en fait, il y a eu le tribunal suprême électoral de la Bolivie, il y a un peu plus d'une semaine, il a publié une liste de toutes les personnes exclues des listes électorales, c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas pouvoir, ne sont pas habilitées à voter. Et donc parmi ces personnes, on a 50 000 personnes qui résident à l'étranger, voilà. Des personnes qui n'ont pas eu la possibilité de faire recours, faire appel à cette décision, ont mis plein de manœuvres pour empêcher que les gens puissent justement régulariser leur situation, pour pouvoir voter. Donc, avec la pandémie, il y avait beaucoup de bureaux, par exemple à l'étranger, beaucoup de bureaux consulaires qui ont été fermés, il n'y avait pas de permanence d'accueil, et souvent, on avait des personnes qui tentaient de faire des démarches pour régulariser ça, ils se connectaient, mais souvent, tu faisais face à un message comme quoi ils disaient non, il faut se rendre sur place parce qu'il y a un tel document qu'il faut accomplir ou faire, et en fait les gens tournaient en rond, jamais pu régulariser. Donc ils ont été arbitrairement sortis de liste, ils ont refusé. Jusqu'à maintenant, on a demandé à travers des appels par différentes organisations, aussi politiques comme des organisations civiles, on a demandé une prolongation exceptionnelle, ils ne l'ont pas fait. Pourtant, il y a un décret aussi s'appuyant sur la pandémie, en Bolivie, Il y en a eu plein d'exceptions qui sont faites, franchement, sur différentes démarches administratives, parce que l'administration en Bolivie,
Bien sûr.
comme c'était en confinement, donc il y avait beaucoup de services de l'administration qui travaillaient à mi-temps. Donc on comprend aussi que ça peut être compliqué dans cette situation, mais justement parce qu'on a la pandémie, je pense que l'idéal aurait été qu'il fasse une prolongation exceptionnelle pour
Bien sûr.
permettre à toutes les personnes de pouvoir exercer leur situation, pour pouvoir exercer leur droit de vote.
C'est une manœuvre misérable, mais une parmi d'autres, j'allais dire.
Une parmi d'autres, et j'ai oublié aussi de souligner que quand on analyse aussi ces personnes qui ont été exclues, on
Oui.
retrouve des populations majoritairement se trouvent en Argentine, au Brésil, où il y a un fort vote en faveur du parti. Donc c'est clairement une manœuvre aussi.
Bien sûr,
C'est bien calculé, en fait.
oui, électoral, oui. Bon, donc la perspective, c'est continuer la lutte dans des conditions difficiles, tout faire pour maintenir, je pense, la lutte à un niveau très élevé pour que l'armée ne vienne pas trancher, et puis souhaiter bon courage. Le micro, Yannette, vous est ouvert pour toute cette période préélectorale. Quand vous voulez, ou tu nous appelles pour nous donner des nouvelles, ou tu repasses le mardi pendant nos émissions, il n'y a aucun souci. Et puis, je vais profiter de la liste de chansons que tu m'as fait passer pour en présenter deux ou trois. Il y aura les Pueblos. Attends, comment ça, une chanson du groupe Cajamarca. Et
Oui.
puis, ah oui, la Preguntita de Benjo Cruz. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la Preguntita? J'ai trouvé ça très émouvant, ce chant très bref de Benjo Cruz.
Oui, ça parle sur nos différentes revendications et des problèmes qu'on avait d'accès aux droits avant avec nos précédents gouvernements
Oui.
néolibéraux. Et avant, je ne sais pas comment est le programme, donc on va finaliser maintenant ou après la musique, on va
Si tu veux,
reprendre.
on peut passer une première chanson, puis tu reprends. Voilà, tu restes à l'écoute, on passe une première chanson. Je ne sais pas laquelle j'ai mis en tête.
D'accord, je patiente alors.
Vas-y. Voilà, ça va venir.
Oui, donc la première, c'est Cajamarca Pueblos.
Pueblos, voilà.
Merci.
Con el sol de la mañana y despierte con un beso en tu mejilla. Deja que en tu vida crezca la conciencia del mañana que ha llegado con el día nuestra hora. Deja un mar en nuestras manos los hilos de los destinos que cambian rumbos y cursos que sin ti se ven perdidos. Deja que la vida crezca con el sol de la mañana y despierte con un beso en tu mejilla. Deja que en tu vida crezca la conciencia del mañana que ha llegado con el día nuestra hora. De tomar en nuestras manos los hilos de los destinos que cambian rumbos y cursos que sin ti se ven perdidos. Esperando, esperando. esperando. Todos los pueblos desde viejos tiempos viven buscando, soñando, luchando. Así mi pueblo ha vivido esperando, 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 esperando. Todos los pueblos desde viejos tiempos viven buscando, soñando, luchando. Así mi pueblo ha vivido esperando.
Hola, los pueblos perdidos. Luchando, soñando, esperando. C'est exactement ça qu'on entend dans leur voix et dans ta prise de position et dans le travail que vous faites. Merci, Yannette.
Oui, non. C'est vrai que c'est un peu dur dernièrement d'écouter ces chansons.
Eh oui, je comprends.
Non, on est dans la lutte et en fait, on est en train de vivre. De vivre ces luttes.
Voilà.
Dans ma première dictature, c'est vrai que je me sens à l'abri en France.
Ouais.
Mais les menaces arrivent jusqu'ici. Je n'ai des camarades qui ont été menacés.
Déjà,
ouais. Nous-mêmes,
ouais.
Oui.
Ouais.
Jusqu'ici. Donc,
voilà.
Sur
donc,
place, là-bas, c'est plus dur. C'est plus
bien sûr. Donc, voilà. Donc, ce ne sera pas cette fois un pueblo perdido. Il luchera et vincera. Hein, c'est ce que je souhaite.
On est debout, en fait.
Voilà, je comprends, et on en est très content. On en est très content, et on fera tout ce qu'on peut pour vous aider. Voilà, c'est donc un groupe qui s'appelle Cajamarca, qui a chanté cette chanson, qui est ton choix, que j'ai découvert et que je trouve exceptionnel. Et puis, j'ai choisi une autre chanson qui s'appelle La Preguntita, de ce qu'on appelle El Cantor Boliviano, qui s'appelle Benjo Cruz, et qui est d'un autre ton, mais qui est très, très riche aussi, poétiquement. Voilà, je te laisse expliquer.
Pardon, c'est un peu mélangé.
Non, non, c'est grave.
Oui, donc, oui, la chanson, il parle, non, de justement cet négationnisme qu'il y avait aux indigènes et aussi
voilà,
l'exclusion qu'on subissait. Il y avait un autre regard avant, et c'est justement avec les autoproclamés, c'est ça qui est revenu en fait.
Oui, exactement. Exactement.
Politique, élitiste, classiste, sur laquelle on se reconnaît plus, malgré que peut-être on pouvait peut-être, il y a des erreurs comme partout dans différents responsables politiques, responsables d'État, mais les bilans montrent non que tous les progrès qui a apporté les processus de changement
de
Morales. Et on est plusieurs de différents courants indigénistes ou de gauche en Bolivie qu'aujourd'hui on est rassemblés face à cette menace de montée du fascisme. Justement, la preguntita, il rappelle, j'appelle que ce n'est pas d'aujourd'hui en fait. C'est une lutte constante en fait. Et c'est ça aussi qu'on doit. Peut-être nous-mêmes en tant que Boliviens ou en France, pas oublier en fait que les acquis sont pas garantis à éternel. On doit les défendre, être prêt à les défendre.
Exactement.
Et peut-être nous, on était naïfs en pensant, ça y est, on a une loi contre antiraciste, donc du coup qu'on vivra plus ces actes racistes qu'on avait vécu aussi. Justement, en fait, avec la montée de Morales en 2004, quand il a monté au niveau des sondages, il avait commencé à prendre un peu plus de la place dans les milieux politiques, dans les élections municipales et nationales de 2004-2005. Bah, c'est là qu'on a vu surgir le racisme. C'est vrai qu'avant, on subissait un racisme, mais ce n'était pas, disons, dans la violence physique. C'était
voilà.
Un racisme qu'on acceptait, disons, je vais être reconnue, intégrée, je vais arriver à qu'on me donne un poste, qu'on regarde mes compétences et pas ma couleur. Du coup, souvent, on devait nier nos habits, notre langue.
Oui.
On devait la mettre de côté. Donc, on subissait comme ça le racisme. Et ce n'est qu'en 2004 qu'on a vu une violence raciste qui est montée, des attaques contre des personnes qui avaient des tresses ou qui portaient des jupes, les jupes
traditionnelles,
traditionnelles des campagnes. Donc c'est là qu'on a aussi, même nous-mêmes les Boliviens, on a pu, disons, parler plus ouvertement ce que c'était racisme. Il y a encore beaucoup de Boliviens qui ne se rendent pas compte en fait qu'ils sont racistes.
Eh oui, les mauvaises habitudes.
Ce sont des mentalités, je pense que ça prendra des années à faire évoluer.
Bien sûr. Mais c'est
on compare aussi en France, du coup on voit que
bien sûr.
Persiste sous différentes formes, mm-hmm. Mais au moins il faut que ce soit, disons, entendu pour les gens qu'il y a des limites qu'on ne peut pas accepter. Ouais. Et moi je voulais profiter de cet espace, Bernard.
Oui, vas-y, on t'écoute.
Faire appel justement s'il y a des organisations sociales qui nous entendent. Il y a des représentants de différents partis politiques, à tous ceux qui sont attachés aux droits fondamentaux, aux droits universels, des libertés d'opinion, liberté d'expression, de nous accompagner dans cette sortie de crise. Nous cherchons là, c'est un SOS que je lance, on a besoin des observateurs internationaux, on a besoin que la presse vienne en Bolivie et accompagne ce processus, à qu'il soit témoin de ce qu'on est en train de vivre en Bolivie. Et peut-être avec, si les autorités boliviennes autoproclamées voient que la communauté internationale regarde ce qui se passe en Bolivie.
Tout à fait.
Et donc, déjà, ils vont se sentir un peu surveillés et ils vont peut-être cette fois-ci un peu respecter les règles internationales et jouer plus vraiment là, un peu plus démocratiquement. Donc, avec les observateurs internationaux et la presse, on pense qu'on va faire respecter les votes des Boliviens, parce que ce sont les Boliviens qui doivent décider sur leur destin. Mais on a besoin, c'est vrai, on connaît les arbitres. Les arbitres ont été, par exemple, la OEA, l'Union européenne.
Bien sûr.
Qui ont reconnu, soutenu ce gouvernement autoproclamé, qu'aujourd'hui on a la ONU et l'ONU, des rapports des Nations Unies du Haut Commissariat aux droits humains qui ont conclu et dénoncent dans leur rapport des violations aux droits humains, des crimes contre l'humanité.
Oui.
Je trouve beaucoup de contradictions avec les institutions, justement, ces arbitres qui soutiennent encore, malgré ces alertes, malgré ces dénonciations.
Exactement.
Soutiennent encore ce gouvernement. Et donc, c'est pour ça que nous, on fait appel à la société civile pour qu'on ait des observateurs internationaux plus neutres pour que les Boliviens puissent décider, eux, leur destin. Avec le respect de leur vote.
Très bien. Tu pourras alors, bien sûr, on soutient tout à fait cette demande, et puis tu pourras utiliser cette émission très librement pour la faire circuler. Tu la retrouveras sur le site, dans les podcasts de Radio Galère, dès ce soir ou dès demain. Donc n'hésite pas. Et puis, j'allais dire, sous forme de conclusion, tu m'appelles et tu nous fais signe dès qu'il y a quelque chose d'important qui se passe pour qu'on en reparle, soit en direct, une fois par semaine, soit à l'occasion.
Voilà. Oui, d'accord. J'ai un interne sinon, mais je voudrais te proposer une francophone bolivienne qui était là récemment et qui est retournée à El Alto.
Ah, très bien.
Donc elle est francophone, donc elle peut te parler de la Bolivie, de les trains.
Très bien.
Et j'ai une autre camarade qui peut-être t'a passé ici à la fête à Marseille.
Très bien.
On a d'autres personnes aussi qui peuvent...
Très bien. Non,
Alimenter
l'information pendant cette période cruciale pour la liberté du peuple bolivien. Grand merci, Yannette. À très, très bientôt. Et on te retrouvera au téléphone ou à l'antenne. Merci encore.
Merci à toi et à vous tous.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, on passe la preguntita maintenant. C'est un des deux morceaux qui restent. C'est le plus court des deux qui restent.
Sin curas ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Otra vez yo pregunté, tata, ¿qué es lo que sabe de Dios? Me miró con ojos serios y nada me respondió. Mi padre murió en las minas sin curas ni protección. Olor a sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce la flor. Sudor, serpiente, malaria, es vida del leñador. Y que nadie le pregunte qué es lo que sabe de Dios. Por su casa no ha pasado tan distinguido señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión oigo las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Hay una cosa en la vida más importante que Dios y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. ¿Que Dios ayuda a los pobres? Tal vez sí, tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
Voilà une morale, je ne fais pas la traduction entière, mais c'est un très beau texte et qui dit surtout qu'il ne faut pas faire couler le sang quand c'est le bonheur du peuple qui est en question. Et Dieu, là-dedans, quand on regarde en haut, se dit peut-être il fera quelque chose, peut-être il ne fera rien, ça veut dire, c'est un slogan d'un autre temps, comptez sur vos propres forces. C'était très bien, cette occasion de parler comme ça de la Bolivie. On en reparlera donc beaucoup, et on parlera aussi la semaine prochaine d'une autre élection qui est importante pour la République française, qui est le scrutin, le référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, qui était prévu dans le dispositif des accords, et qui fait suite au précédent, où je rappelle donc le non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie l'a emporté assez, pas très largement, beaucoup moins que ce qui était attendu à Paris et par la République française, et où là, donc, il y a une nouvelle tentative qui pourrait, effectivement, on en parlera abondamment, déboucher sur une indépendance sans bain de sang. Là aussi, que le sang ne coule pas pour quand c'est le bonheur du peuple qui est en question. C'est ça la question fondamentale. Et à propos de sang qui coule, je voulais rappeler un moment qui est symbolique de l'histoire passée de la Bolivie, où il y a déjà eu des coups d'État fascistes. Je pense à celui en particulier du général Banzer. Et je voulais rappeler qu'à ce moment-là, qu'a fait ce gouvernement bolivien ? Il a naturalisé un citoyen étranger pour l'aider dans ses tâches répressives. Savez-vous le nom de ce citoyen étranger ? Il s'appelait Klaus Barbie. Et il est venu importer en Bolivie les méthodes de torture nazie. Apparemment, il y a encore des restes, hélas. Bon, ouf, reprenons notre souffle, parce que tout ça n'est pas très, très drôle. Ceci étant, il y a quand même des choses intéressantes à dire. Je m'arrête juste sur une petite question, mais qui a de l'importance dans le contexte de la politique moyen-orientale des États-Unis. L'Algérie a pris une position parfaitement claire en disant qu'elle refuserait définitivement, qu'elle avait toujours refusé et qu'elle n'allait pas du tout changer de position et qu'elle n'allait pas reconnaître l'État d'Israël ni signer de traité de paix. Le président algérien a été tout à fait net. Nous soutenons, nous avons toujours soutenu la cause palestinienne et nous la soutiendrons jusqu'au bout. Donc ça, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Côté des guerres aussi dans cette région-là du monde, je dois préciser que l'armée arabe syrienne, donc l'armée officielle gouvernementale, est en train d'attaquer très très sévèrement par la voie aérienne et au sol en même temps les différents points de concentration des terroristes dans la zone d'Idleb. Et ça se fait avec l'impression qui est donnée et qui se voit sur un certain nombre de vidéos du recul progressif des éléments de l'armée turque qui étaient dans cette zone-là et qui appuyaient les terroristes. Donc il y aurait là, si effectivement l'abcès d'Idleb finissait par être vidé, on aurait une évolution donc assez définitive de l'opération militaire, et ça conforterait ce que le ministre des Affaires étrangères russe a dit ces deux derniers jours, puisqu'il a dit qu'il n'y a plus que deux foyers de guerre en Syrie, la zone d'Idlib et la zone des puits de pétrole dans l'est, le reste du territoire, où là, c'est carrément des dizaines, voire des centaines de véhicules de l'armée des États-Unis qui rentrent par la frontière depuis l'Irak pour défendre les installations pétrolières qu'ils ont volées. Voilà. Bon, mais à part ça, tout va bien. Mais enfin, je pense que Lavrov a raison, parce qu'il a beaucoup plus d'informations que nous pour le faire. Il a dit, on a là les deux dernières zones d'accrochage militaire, mais en gros, la guerre est derrière nous. Bon, c'est ce que je souhaite et que je suis certainement pas le seul à souhaiter, et surtout pas les millions de Syriens qui ont fui leur pays parce qu'ils ne voulaient pas y mourir dans des luttes qui ne les concernaient pas. Voilà. Puisque j'ai cité la Russie, je vais m'arrêter un instant là-dessus pour vous faire part d'une position. Alors vous savez qu'en Russie, il y a une constitution, il n'y a pas un monsieur qui décide de tout. Enfin, ça, c'est la version qu'on nous vend ici. Vladimir au Kremlin, qui, comme Ivan le Terrible ou comme Pierre le Grand, dit c'est comme ci, c'est comme ça. Non, il y a une constitution, il y a un parlement avec deux chambres. Alors la chambre basque, comme on a le parlement ici, ça s'appelle la Douma, c'est plus connu. Et puis il y en a une autre qui s'appelle le Conseil de la Fédération de Russie, et c'est une espèce de Sénat, si vous voulez, pour faire prendre un exemple qui nous vous parle un peu. Il y a 170 membres, c'est pas beaucoup, mais chacune des institutions de la Fédération russe, c'est très compliqué la Fédération russe, on n'est pas habitué à ces systèmes fédéraux dans notre République encore centralisée, donc il y a 85 membres de la Fédération de Russie qui sont des républiques, des oblasts, des kraïks, des oblasts autonomes, des villes fédérales, enfin, c'est assez compliqué, et donc chacun de ces 85 éléments qui constituent ensemble la Fédération de Russie et qui se reconnaissent dans sa constitution et qui élisent le président, élisent deux personnes. Donc voilà. Et ce Conseil de la Fédération de Russie, dont on parle peu, s'est signalé à l'attention des foules en disant qu'il était souhaitable d'arrêter de faire comprendre aux États-Unis que faire voler tous les jours, et même plus souvent que ça, des avions de l'armée de l'air états-unienne avec des bombes atomiques, etc., tout autour de la Russie, voire à l'occasion par erreur tout à fait sur le sol ou dans le ciel de la Russie, il fallait que ça cesse. Et donc le Conseil de la Fédération de Russie, c'est pas le gouvernement, mais c'est une chambre qui pèse son poids et qui a le pouvoir d'ailleurs particulier de pouvoir destituer le président. Ça existe aussi, mais on a l'impression qu'il ne se passe rien en Russie, qu'il y a un chef et que... On est resté sur cette image d'un monsieur qui fait tout, hein, l'image de Staline qui décide de tout, qui fait tout seul. Hein, et puis là, on l'a prolongé sur Poutine qui fait tout, qui fait ce qu'il veut. Ben, il ne fait pas tout ce qu'il veut, mais là, je pense que ça doit lui plaire, puisque la fédération... le Conseil de la Fédération de Russie a dit que la Russie devait installer de la même façon, de façon symétrique à ce que font les États-Unis, des bases militaires avec des avions, des bombardiers, détenteurs, porteurs de bombes atomiques, le plus près possible des frontières des États-Unis. Puisqu'ils le font, on le fait aussi. Bon. Et donc, si cette position est reprise, et je pense que ce n'est pas venu tout à fait à part ça en débat, on va voir arriver une base avec des bombardiers stratégiques permanents, avec des bombes atomiques à leur bord, une à Cuba et l'autre au Venezuela. Et comme ça, vous savez que tout ce qui se passe à Cuba rend la Floride complètement hystérique. Hein, quand ils sauront qu'à 200 km, il y a des bombes atomiques avec des bombardiers stratégiques, peut-être, ils comprendront qu'ils devraient peut-être se calmer. C'est ça le but de la manœuvre. Bon. C'est assez intéressant de donner, mais on en est là. Je rappelle quand même qu'à la suite de la crise des fusées, tout ça fait écho à la crise des fusées de 1962, il avait été acquis que l'URSS de l'époque retirait ses bombes atomiques, plutôt ses missiles qu'elle avait installés, les missiles à tête nucléaire qu'elle avait installés sur le sol cubain. Et en échange, les États-Unis retiraient leurs missiles, qu'on appelait les fusées Jupiter, qu'ils avaient installés sur le sol turc. Il faut savoir que la Turquie, à l'époque, on était encore du temps de l'URSS, donc la Turquie était le nez sur la frontière de soviétique, que ce soit côté arménien ou côté azéri, pardon, je vais le dire. Et donc, c'était cette promesse qui n'avait pas été tenue. Donc, les soviétiques avaient retiré leurs fusées et les États-Unis avaient oublié de le faire. Bon, ça fait partie de leur façon de travailler. Alors, puisque j'en suis à leur façon de travailler, je m'arrête sur un petit incident, j'allais dire, comique et délicieux, si j'ose dire. Monsieur Trump a dit, à l'occasion de quelle interview, de quelle confidence, il a dit qu'à un moment donné, il avait prévu de faire assassiner Bachar el-Assad, et puis que ça ne s'était pas fait. Alors, c'est cocasse, parce qu'il dit, bon, je m'étais mis ça dans la tête et je pensais qu'il fallait le virer, hein, c'est ça, il fallait l'enlever. Bon, il le dit comme ça, c'est Trump et ses tweets. Et puis en fait, Matisse, à l'époque, c'était son ministre de la Défense, ne voulait pas. Il a dit non, on ne va pas s'embarquer là-dedans, etc. Il a dit bon, mais alors, Trump, il dit moi j'avais pensé ça, c'était peut-être une façon de faire avancer les affaires. Matisse ne veut pas, bon, on ne le fait pas. Alors, ça paraît un dialogue de film. Et en fait, on se dit que dans ce fameux bureau de la Maison-Blanche, combien de fois ce dialogue a-t-il été tenu? Parce que là, Trump, il est comme il est, c'est-à-dire il met les pieds dans le plat, il dit « Oui, moi j'avais pensé tuer l'autre, hein, qu'on n'en parle plus, que les affaires avancent. » Et puis, le ministre a dit « Non, ça ne se fait pas. » Alors, le ministre, en plus, s'est appuyé sur le fait que Ronald Reagan lui-même, c'est ça qui est bien cocasse, avait signé un décret, ce qu'on appelle les Executive Order, le 12333, je cite ça pour les curieux qui veulent aller dans les archives, interdisant d'assassiner des chefs d'État ou des représentants de pays étrangers. En se référant, bien sûr, à la charte de l'ONU, aux conventions de Genève, enfin, toute une série, y compris une convention américaine sur les droits de l'homme. Hein. Donc, ce papier existe depuis 1981 ou 82. Et depuis, effectivement, les présidents n'ont jamais décidé. Alors, ça ne veut pas dire que, par des chemins obscurs et détournés, il n'y a pas eu des assassinats ici et là. On sait, par exemple, on a de forts doutes sur le cancer qui a affecté Hugo Chavez, qui n'a peut-être pas été décidé dans la Maison-Blanche, mais enfin, c'est un cancer assez bizarre. Hein. Difficile à soigner, même insoignable, les meilleurs médecins cubains s'y sont cassés les dents. Donc, il y a peut-être eu des tentatives comme ça. Mais là, effectivement, Trump dit, ben moi, j'avais, dans discutant comme ça le matin, quand on fait le tour de la situation mondiale, il dit, si on tuait un tel ou un tel. Et l'autre lui dit, non, patron, on n'arrête, c'est pas la peine. Voilà. Bon. Et à la place, on va prendre ses puits de pétrole, on est... à une activité beaucoup plus présentable. Encore qu'illégale, mais ça, c'est pas ça qui les empêche de dormir. Voilà ce que je voulais dire sur les... Alors, je vais pas parler plus, parce que quand même l'échéance approche et on sent l'énervement prendre l'opinion américaine et même l'opinion internationale, parce que les observateurs, et en particulier les gouvernements étrangers, les gouvernements européens et tout, commencent à s'interroger sur qu'est-ce qui va se passer le soir de l'élection présidentielle aux États-Unis. Effectivement, la situation est très très confuse, puisque en gros les démocrates écrivent que si Trump se proclame élu, alors que je ne pense pas que ce soit lui qui se proclamera, il y a quand même des règles constitutionnelles, s'il a gagné, il a gagné, mais les autres ne reconnaîtront pas, ils l'ont déjà dit, sa victoire. Donc on a une période incertaine, inconnue dans l'histoire des États-Unis, parce que je rappelle le précédent de l'élection où Al Gore avait affronté Bush. Il y a eu un accord élitaire entre gens bien élevés, mais les personnes étaient descendues dans la rue, ni quoi que ce soit. Là, on s'achemine vers quelque chose de beaucoup plus corsé et de beaucoup plus inattendu dans ses conséquences, c'est-à-dire lancer des foules au nom de ceci ou de cela, de la démocratie, des respects de ci ou de ça, et dire on verra bien ce qu'il en sortira. C'est un jeu qu'apparemment les démocrates envisagent d'utiliser. Bon, on en reparlera. Mais je ne vais pas m'attarder plus, parce qu'on n'est pas au bout, mais on sent que c'est chaud. Alors, à propos de situation chaude, mais là, on ne nous en parle pas trop, parce que ça gêne beaucoup le gouvernement de la République française, vous avez peut-être entendu dire que pratiquement les négociations qui étaient en cours entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour organiser la sortie, donc le fameux Brexit du Royaume-Uni de l'Union européenne, étaient en train de tourner court. Et donc, c'est le négociateur européen lui-même, donc le français Michel Barnier, qui a dit « ils ne veulent pas négocier ». Alors, c'est pas un drame en soi. S'ils ne veulent pas négocier, ça veut dire qu'un jour, ils sont en dehors de l'Union et que le lendemain matin, en matière d'échanges internationaux, c'est ça le problème, régler les échanges entre l'Union et le Royaume-Uni. Eh bien, c'est les traités de l'Organisation mondiale du commerce qui s'appliquent là, comme dans le monde entier, à tous les pays qui les ont signés. Le Royaume-Uni d'un côté, l'Union européenne et ses membres de l'autre. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a rien d'autre à négocier. C'est-à-dire, je m'en vais demain matin, mais voilà, les règles du jeu, elles sont dans les traités de l'OMC, point à la ligne. Ça, c'est dévastateur pour un certain nombre d'intérêts français. Les intérêts français dévastés, qui le seraient dans ce cas-là, seraient les intérêts agricoles et en particulier vinicoles, parce que le Royaume-Uni importe beaucoup de vin et de champagne, et puis les intérêts de la pêche française. Parce que dans les accords existants au sein de l'Union européenne, les zones de pêche de la pêche française sont dans les eaux territoriales britanniques. Pour une partie, il y a eu un accord là-dessus. Si un jour X... c'est terminé, il n'y a plus de relation, ben effectivement, la Grande-Bretagne redéfinit ses eaux territoriales et les bateaux de l'Union européenne n'y rentrent plus. Au premier chef, les bateaux français qui sont ceux qui en profitent le plus. On a là presque, enfin j'allais pas dire c'est excessif, parce que c'est peut-être comme ça que ce sera présenté, une crise énorme pour la pêche industrielle française. Voilà. Il s'ajoute à ça la question des migrants. Il y aura des problèmes donc, pour faire passer tous les camions et les camions qui servent souvent de support à des transports de migrants, c'est tout ça. Donc tout ça peut s'organiser différemment, c'est-à-dire que, imaginons, je ne sais pas, des fruits qui arrivent d'Espagne ou d'Italie qui vont embarquer pour la Grande-Bretagne, ben, s'il y a un problème dans les ports français, réfléchissez, regardez la carte, les ports belges, c'est pas si loin, les ports néerlandais, c'est pas si loin non plus, et ben voilà, les ports français ne feront plus ce travail-là, on verra bien. Donc là, on a un dossier difficile, qui aura des conséquences économiques très importantes, mais sur lequel le gouvernement français n'est pas bavard, parce qu'il est bien, bien embêté, parce qu'il pensait qu'il allait être possible de négocier. Or, il est possible de ne pas négocier, ça s'était dit au moment du vote du Brexit, il y a une possibilité de sortie sans accord, c'est-à-dire on va dans le domaine des accords déjà signés entre la Grande-Bretagne indépendante et les membres de l'Union européenne indépendants. Ça, c'est un sujet pour la suite, mais on en reparlera sûrement. Quelques mots sur les perspectives économiques générales. Puisqu'on est, vous savez, en crise économique avancée et prolongé, puisque plus la pandémie n'arrête pas de s'arrêter, plus l'économie souffre, puisque l'activité ralentit, certaines personnes ne peuvent plus travailler, d'autres sont en télétravail, d'autres ne peuvent pas regagner leur lieu de travail, enfin, tout ça se complique et se complique jour par jour, lieu après lieu, industrie après industrie, dans cette espèce d'épidémie qui ne finit pas. Alors ça a des incidences, et l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, qui regroupe tous les pays développés ou considérés comme tels de la planète, a fait un point sur la perspective de diminution du PIB mondial. Ce serait donc moins 4,5% cette année, ce qui est pas mal. Alors il y a pratiquement, et je le confirme, l'OCDE elle-même dit que la Chine sera la seule positive, avec quelque chose autour de plus 2%. Et les autres se baladeront entre des moins 5, des moins 10. Alors les États-Unis, apparemment, d'après leurs chiffres, s'en sortent plutôt bien. Ça serait de l'ordre de 4% la baisse du PIB. Ça veut dire, et on s'en doute à des réactions diverses, que tellement d'usines et d'installations productives aux États-Unis font travailler de force leur personnel, protégé ou pas, que l'activité n'a pas tant diminué. Et puis si on ajoute dans les chiffres du PIB les résultats extraordinaire de la bourse pour les boîtes du GAFA, comme on dit, ça peut donner une illusion sur l'activité économique réelle. Mais on n'est pas tout à fait au bout de nos peines. Donc voilà les perspectives. Et puis il y a des chiffres par secteur. Je m'arrête un petit peu sur autre chose, puisque là il y a aussi des gens qui font un travail secteur par secteur. Qu'est-ce qui se passe en fonction des résultats de cette crise économique d'ampleur ? Et je vous donne une information, les pertes du tourisme mondial s'élèvent à 450 milliards de dollars. Écoutez bien, 450 milliards de dollars. Bon, c'est très simple, hein, baisse des voyages, pas d'avion, etc. Bon, ça a été tout ça. Ça, c'est l'Organisation mondiale du tourisme, c'est donc une organisation spécialisée des Nations unies. Et donc, voilà. Et alors, ils ont des points de départ de leurs statistiques. La baisse massive de la demande de voyages internationaux au cours de la période de janvier à juin 2020 se traduit par une perte de 440 millions d'arrivées internationales et d'environ, donc, l'équivalent de 460 milliards de dollars de revenus des exportations provenant du tourisme international. C'est environ 5 fois plus que la perte de revenus du tourisme international enregistrée en 2009 au plein milieu de la crise qui avait suivi la crise des subprimes, on se souvient, en 2008. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées de touristes internationaux ont chuté de 65% au cours du premier semestre de l'année, avec toutes les restrictions de voyage, vous avez connu ça. L'Asie, tout le monde est touché, l'Asie en premier, l'Europe en deuxième, l'Afrique et l'Europe et le Moyen-Orient un peu moins. Alors, juste une réflexion par rapport à ça. Quand on est, comme nous ici à Marseille, dans une ville qui vit une partie de l'activité touristique, quand on est dans un pays qui a fait le choix et qui a des qualités pour ça, et des aptitudes, des compétences, on dirait dans le jargon managérial, la France est un beau pays touristique. Et donc la France va souffrir particulièrement de ce genre de baisse d'activité, parce qu'elle va aussi souffrir d'un choix qui a été fait par toute une série d'équipes dirigeantes, nous disent « Oh, les industries, c'est polluant, c'est pas intéressant, on les laisse faire, hein, débrouillons-nous, importons des produits, mais nous, faisons, transformons-nous en pays touristique ». On devient de ce fait extrêmement fragile, parce qu'il suffit d'un événement comme ça, alors que si vous fabriquez, enfin si vous produisez des pommes de terre ou si vous fabriquez des voitures, c'est pas pareil, ça chute pas comme ça brutalement de 60%. Hein. Mais là, donc c'est un secteur extrêmement fragile, extrêmement sensible. On l'a vu à travers les croisières maritimes, etc. Voilà. Donc la France paye aujourd'hui, et elle est nue par rapport à des choix faits depuis des décennies, je n'incrimine pas que Macron, qui ne fait que poursuivre en exacerbant les tendances, le choix d'une économie de services, d'une économie avec beaucoup de banques, mais pas beaucoup d'usines, avec beaucoup d'activités touristiques, alors on valorise un potentiel qui est considérable, c'est un beau pays, mais il y en a d'autres aussi, et de fait c'est une économie très très fragile dans des périodes pareilles. Ça, on va le payer à peu près tous, parce qu'on ne vit pas tous du tourisme, mais quand même, quand on est dans les villes où on est à Marseille ou dans d'autres, on s'aperçoit que sans les revenus touristiques qui touchent la restauration, l'hôtellerie et tout, beaucoup d'emplois vont disparaître et beaucoup de familles vont souffrir dans leur niveau de vie. Voilà ce que je voulais dire pour continuer. Et donc, on se retrouvera mardi prochain. On parlera donc du référendum en Nouvelle-Calédonie, qui est un moment important. Et puis d'autres petites choses que je vous ai gardées pour la bonne bouche. Merci de votre attention. Merci Sidi. On va finir, on va peut-être mettre la troisième musique bolivienne pour faire plaisir à Yannette, qui est entre les deux là. Qui doit s'appeler, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, c'est très intéressant parce que comment on croit El Chuño? Alors je dis un mot parce que vous allez entendre parler espagnol. El Chuño, j'ai appris en écoutant cette chanson qu'on pouvait transformer la pomme de terre. On pouvait en faire de la congélation et faire un aliment qui ne se pourrit pas. Donc il faut compresser la pomme de terre, la mettre à geler. C'est une invention des Indiens des hauts plateaux, parce que congeler, ils savent faire, il suffit de mettre dehors certaines parties de l'année. Et on peut utiliser la pomme de terre congelée, c'est le chuño. Voilà. Como cresca el chuño. On entend cette chanson pour terminer. Merci Sidi.
Flores que el chuño, caguán, no caguán, cuando flores que el chuño.
No digas que has olvidado la tierra donde naciste. No digas que has olvidado la tierra donde naciste. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Mampi, Nayampi, cuánto flores que el chuño. Cahuán, yo cahuán, cuánto flores que el chuño. One.